9h18, ben c'est la 26e édition du Mondial de la bière de Montréal qui se tient à la gare Windsor. C'est jusqu'à samedi prochain, jusqu'au 25 mai. Alors, il y a quoi, 420 choix de bière pour les amateurs. Et pour savoir un peu si on y retrouve des choses étonnantes, et oui, on en retrouve, me confirme-t-on, on a pensé inviter Yann Lortie, qui est pas lié du tout au Mondial de la bière de Montréal. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on l'a invité. Bonjour Yann.
Bon matin, merci.
Et toi, t'es sommelier en bière.
Hein? Exactement. Je suis un sommelier en bière spécialiste. Je suis indépendant par rapport aux brasseries, par rapport au festival. Et je fais de la consultation et de la formation dans le monde de la bière.
T'es allé au... T'es allé au Mondial, là.
Je suis allé faire mon petit tour annuel hier midi.
Puis il n'y a pas trop mal à la tête, alors ça a l'air correct.
J'ai fait très attention, des petites doses seulement.
Comment on devient sommelier en bière?
Il y a plusieurs parcours possibles. Ça peut être par l'expérience, une reconnaissance de nos pairs, parce qu'on a travaillé longtemps dans le domaine. On a fait de la formation, on a travaillé dans les bars, les restaurants. Moi, j'ai eu la chance de faire une formation il y a environ 5 ans qui se donnait à Gatineau, qui était un programme de sommelier bière à la Cité collégiale. C'est un programme de 640 heures. Et ce programme-là n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Mais c'est un peu comme ça que j'ai vraiment peaufiné ma formation. Et depuis, je travaille dans un bistrot vice-versa, où je continue à être constamment en contact avec les produits, avec les producteurs, avec les gens de l'industrie, et à travers les formations puis la consultation que je fais aussi au Québec. Ouais.
Est-ce que pour être sommelier en bière, il faut avoir les mêmes aptitudes que sommelier en vin, par exemple? Parce que c'est dans le fond, c'est la reconnaissance des goûts. Il faut développer ses papilles, tout ça. Est-ce que tu es aussi un bon dégustateur de vin? Est-ce que
je suis pas du tout spécialiste en vin, mais j'ai beaucoup d'intérêt. J'aime énormément le vin.
J'aime les goûts,
en fait,
général.
Exactement. Ouais. Je pense que j'aime les goûts, j'aime les produits bien faits. Je pense que quiconque est sommelier ou spécialiste dans un domaine où on parle de saveur ou de gastronomie, il faut vraiment avoir un grand intérêt pour le produit. Il faut être curieux, il faut vouloir s'informer. Mais oui, je veux dire, faut avoir un bon palais à la base, mais c'est quelque chose qui se forme, c'est comme un muscle. Et à force de travailler dessus, de goûter à des trucs, de cibler des saveurs pour pouvoir justement les communiquer puis les vulgariser, on forme son palais aussi.
OK. Parce qu'en vin, là, on peut reconnaître, un bon sommelier peut reconnaître des régions, là, évidemment, les cépages, bien sûr, les millésimes, les régions, etc. Est-ce qu'en bière, on peut faire à peu près la même chose? Es-tu capable de reconnaître des produits en particulier?
On peut vraiment reconnaître des saveurs, des goûts, certains profils, mais c'est dur de reconnaître des régions ou des millésimes parce que la bière, le vin est très ancré au terroir, ce que la bière l'est moins. Le terroir dans la bière va être associé des fois à certains grains ou certains houblons ou, par exemple, à des levures. Mais les brasseurs achètent des grains d'un peu partout, des houblons d'un peu partout. Donc, c'est très difficile de pouvoir dire, OK, cette bière-là vient de telle région. Mais on peut, par contre, rapidement trouver de quelle influence brassicole elle vient. Donc, je peux goûter une bière, faire comme, ça, c'est une inspiration allemande.
Ouais.
Elle peut avoir été brassée à Gatineau, c'est un style d'inspiration allemand.
OK. Est-ce que... c'est un paquet d'affaires qui m'intéresse là-dedans, le fait d'être sommelier. Est-ce que... Parce que c'est possible de faire de la bière à la maison.
Oui.
Les gens peuvent... Moi, j'ai un ami à Québec qui fait de la bière, qui fait sa propre bière, puis elle est sacrément bonne, là. Et est-ce que toi, tu fais ça?
Oui, j'en fais depuis près de 10 ans.
Ouais.
Et l'intérêt pour le brassage amateur au Québec a explosé. Il y a des groupes immenses. Il y a beaucoup de gens qui communiquent cette information, qui partagent des recettes.
Mais on brasse comme les vrais brasseurs, mais en minuscule, dans le fond.
Absolument. On n'a juste pas des équipements très, très spécialisés. Mais en fait, un bon brassage, ça commence par un bon assainissement de son équipement. Il faut nettoyer, nettoyer.
Ça, c'est sûr.
C'est sûr qu'à force de brasser, on a déjà de l'équipement un peu plus spécialisé pour raffiner ses recettes. Mais il y a moyen, avec une bonne formation, de l'équipement, de brasser une excellente bière à la maison.
Ouais. Et tu le fais en année?
Je le fais de moins en moins. Je brasse peut-être aux 6-8 semaines maintenant.
Ah, mais, quand même.
Ben quand même.
Ouais,
ça.
Ouais.
Okay. Ça en fait à la maison.
Bon, alors, parlons de la 26e édition de ce Mondial de la bière de Montréal. On parle de 420 produits. Ça vient d'où, ces produits-là? Est-ce que c'est principalement des produits québécois aussi?
La majorité vient du Québec. Il y a un petit... la preuve, c'est le produit vraiment du Québec. Par contre, il y a quand même un beau volet international. Il y a un petit section qui s'appelle le Pub des Nations, je ne me trompe pas, ou le Petit Pub, où le Mondial a importé des bières. Il y a des bières du Brésil, des États-Unis, de l'Allemagne, etc., où on peut goûter des produits aussi internationaux.
Mm-hmm. Et est-ce qu'on peut acheter de la bière sur place ou c'est plus pour connaître les produits?
Non, on peut seulement déguster sur place. Okay. Il y a un peu de marchandises, naturellement, qu'on peut acheter, mais on ne peut pas acheter les bières directement.
OK. Le Québec est bien représenté, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de microbrasseries au Québec. Hein? C'est en développement constant.
Je n'ai pas le compte exact aujourd'hui, on est à plus de 200.
Ouais.
Et on peut dire qu'il y en a à peu près une à deux par mois au Québec.
Donc,
ça continue d'augmenter.
ça veut dire que ça ouvre. Il doit y avoir... une demande et parce que j'entends peu de microbrasseries qui ferment là, j'en entends beaucoup.
Il y en a très peu, la plupart ouvrent présentement, donc ça continue à augmenter. Il y a un intérêt constant au Québec pour la bière de microbrasserie. Il y a un intérêt, je pense, tout court pour les produits artisanaux au Québec. On regarde les boulangeries, les fromageries, les charcuteries, même une belle gamme de vins nature qui est en train de se développer au Québec. Mm-hmm. Les gens veulent boire, manger local, veulent manger, puis ils s'associent beaucoup à leur localité, à la région, au terroir. Et la bière de microbrasserie fait complètement partie de ce mouvement-là.
Ben oui, hein, complètement. Quels sont les produits qui t'ont particulièrement marqué? On va parler d'une bière dans quelques minutes, là, on peut peut-être même en parler tout de suite. Entre autres, il y a un produit, une bière qui fait beaucoup jaser à ce mondial. C'est une bière qui change de goût. C'est-à-dire que tu vas ouvrir la bière, tu vas en prendre une gorgée, et puis au fur et à mesure que tu vas boire ta bière, elle n'aura pas le même goût. Elle change complètement de goût.
Exactement. Donc, c'est un autre coup. Cette brasse qui brasse cette bière-là aime faire des coups assez fumants chaque année pour se faire connaître. L'année passée, c'était une bière au cannabis. Je pense qu'année d'avant, c'était une bière avec une roche de Mars. Donc, cette année, avec une bière qui change de goût, qui est un goût évolutif. En fait, ce qu'ils utilisent dans cette bière-là, c'est surtout le fruit qui est spécial. C'est un fruit du miracle qui s'appelle. Et ce fruit-là, qui est dans la bière, va altérer les goûts au fur et à mesure qu'on boit la bière. Mm-hmm. Donc, première des choses, ne pas boire cette bière-là au début. Et j'ai beaucoup aimé que le kiosque sur place nous disait, est-ce que c'est votre dernière bière de la journée? Parce qu'ensuite, toutes les autres bières qu'on va goûter vont aussi être altérées par cet effet-là que le fruit fait.
Donc, c'est le fruit qui laisse sur les papilles, je sais pas quoi, qui va changer le.
Je vais aller lire sur la chimie du fruit, mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça l'endort ou ça paralyse une partie des papilles gustatives. Moi, ça s'est vraiment affecté sur le côté de la langue où est-ce qu'on capte une grande part de l'acidité.
Okay.
Donc, on suggère de boire la bière lentement, un peu comme un vin, de la prendre en petites gorgées. Et tranquillement, c'est une bière qu'on appelle de type Berliner Weiss, donc une bière acidulée, avec une belle acidité, un peu comme du citron, hein, l'espèce d'acidité qui mord. Et plus on boit la bière tranquillement, plus c'est. Moi, j'ai senti au début, c'est peut-être un effet là, un peu placebo, mais j'ai senti un petit engourdissement sur le côté de la langue. Là. Et tranquillement, ben, on sent que cette acidité descend et que la bière, au lieu de devenir un bonbon sûr, va devenir plus un bonbon fruité, si on veut. C'est très progressif, c'est lent, c'est un petit changement. C'est pas drastique, c'est pas comme un gros coup de piquant qui va nous frapper, mais il y a tranquillement un petit changement qui se crée.
OK. Est-ce que c'est juste une curiosité ou si ça a vraiment bon goût?
C'est plus une curiosité, mais étrangement, quand même, c'est une bière qui était quand même très agréable. À part l'effet d'engourdissement que moi, j'ai pas aimé personnellement, c'est une bière qui a un nez un petit peu citronné, un peu agrumé, qui a une belle fraîcheur, une acidité intéressante. Donc, oui, ça reste une bière qui est agréable, qui est bonne, mais le côté engourdissement m'a un peu dérangé, surtout parce que je travaille avec cet instrument-là qui est ma bouche là, pour les saveurs. Peut-être que ça m'a aussi un peu déstabilisé.
OK, mais là, évidemment, c'est disponible juste là. On ne peut pas acheter ça nulle part.
Je crois qu'il est disponible au pub. Qui s'appelle le Saint-Boc sur Saint-Denis. J'imagine qu'il la serve aussi.
OK, c'est le seul endroit où on peut la trouver. Oui. Mais en tout cas, il reste que c'est une des curiosités qu'on peut retrouver.
Absolument.
Mais quels sont les. Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant à ce mondial?
Comme type de bière ou comme brasserie?
Ben, vas-y comme tu veux. Tu veux y aller avec les types de bière en premier?
Non, mais on pourrait parler en fait un peu du mondial. Le mondial cette année change de localité. En fait, il a été pendant quelques années à la place Bonaventure.
Ouais.
Il revient à la gare Windsor. C'est un retour à la gare Windsor. Donc, un endroit qui est plus agréable tant qu'à moi. Mm-hmm. Si vous y allez, aussi, je vous conseille vraiment d'y aller en métro. En première, vous allez boire de la bière, donc c'est mieux d'être dernier en métro. Ouais. Mais aussi, il y a beaucoup de construction dans le secteur. La gare Windsor, par rapport à la place Bonaventure, ce qui est agréable, c'est un endroit qui est beaucoup plus lumineux. Hein. C'est un grand espace avec un puits de lumière.
Ouais.
C'est plus petit, c'est plus chaleureux, c'est beaucoup moins écho. Donc, au niveau des oreilles, c'est beaucoup plus agréable. Cette année, il y avait par contre peut-être un peu moins d'espace. Ça va de soi, vu que c'est un endroit plus petit. Mais c'était plus chaleureux à la limite.
Okay.
J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, c'était par rapport au ratio, qu'il y avait beaucoup de grands brasseurs versus les microbrasseries. J'ai peut-être trouver un peu moins de choix dans le type microbrasserie. C'est aussi à cause de la disposition, parce que ce matin, je regardais la liste des brasseries, puis j'ai fait « Oh, j'ai pas vu ça. » Donc, il faut peut-être fouiller un peu plus. Mais sinon, c'est une ambiance générale qui est meilleure.
Mais quand tu parles des grands brasseurs, tu parles vraiment des Molson Coors, la Labatt de ce monde?
Oui, je parle des Molson Coors, la Labatt, Sapporo, mais aussi leur je mets des guillemets, microbrasseries associées. Donc, les microbrasseries qu'eux ont achetées. On peut parler de Creemore, etc., etc., qui sont aussi très, très, très représentés.
OK. Et dans les produits, il y a quand même pas mal de choix. Là, on parle de 420 choix de bière, je pense. Qu'est-ce que tu as découvert?
On s'y retrouve qu'il y a quand même beaucoup de produits. Qu'est-ce que j'ai découvert? Ben, une brasserie qui est assez jeune quand même, puis que moi, j'ai goûté à beaucoup de leurs produits hier, j'en avais goûté avant, mais hier plus particulièrement, ça s'appelle Onze Comtés. C'est une brasserie de Cookshire Eaton. C'est, je pense, entre Sherbrooke et Mégantic. Vraiment des beaux produits. En fait, c'est super intéressant. Ils travaillent beaucoup avec les produits du terroir. Donc, leur malt vient du Québec, les houblons viennent du Québec. Ils ont isolé eux-mêmes leur levure dans leur mélange de levure qu'il y avait déjà. Donc, c'est un peu, leur levure est un peu atypique, unique. Les fruits, les épices utilisées viennent de la région également.
Ouais.
Et toutes les bières que j'ai goûtées là-bas étaient très digestes. C'est atypique. Ils font pas de grosses IPA comme à la mode. Il y avait un porter un peu acidulé. Il y avait aussi une bière au cassis acidulé, donc, au sureau, excusez-moi. Donc, beaucoup de produits très agréables, très digestes et original.
OK. Est-ce qu'il y a un changement qui s'opère? Parce que moi, je me souviens au début des microbrasseries, on reproduisait beaucoup les bières de type belge.
Oui.
Hein, c'était très, très à la mode. Là, on est plus dans les IPA. Est-ce que ça, c'est des modes qui passent et on s'en va vers quoi?
Il y a un peu des cycles. C'est sûr qu'au Québec, on s'est vite lancé dans les bières belges parce qu'on a une affinité francophone avec la Belgique et la documentation et les communications étaient plus faciles. La mode américaine des IPA a pas juste frappé le Québec, mais le monde entier. Maintenant, en Belgique, on veut brasser aussi des IPA. Donc, c'est la deuxième vague, si on veut. On a eu les bières sûres il y a une couple d'années aussi qui ont très bien rentré et qui continuent de performer. Présentement, on peut voir peut-être trois tendances qui sont en train de déclore. Un des premiers, c'est le retour de la lager. La lager, les gens l'ont un peu abandonné parce qu'on l'a associé à la lager américaine par des grands brasseurs. Et on a oublié un peu la lager.
Qui était un peu, mettons, disons.
Plus insipide, plus douce, plus
légère.
Exactement.
Mettons, au goût, en tout cas.
Et on associe la lager à ces produits-là. Alors que la lager vient d'Allemagne, de République tchèque. Il y a des produits extrêmement savoureux, plus simples, mais quand même. Il y a quand même un équilibre incroyable là-dedans. Et je prends par exemple Arikana, Hildegard, Vrouden, qui développent une gamme de lager d'une beauté, d'une
finesse,
buvabilité, d'une finesse. Et c'est le genre de bière qu'on peut prendre 2-3 pintes sans nécessairement s'entanner. Donc il y a un retour à la lager qui est super intéressant présentement.
Ouais. C'est quoi la différence entre une lager et une pilsner?
Ah, c'est très excellente question.
Merci.
La pilsner est un style qui fait partie de la famille des lagers.
OK.
Donc, en fait, il y a 2-3 familles, mais les deux familles qu'on connaît le plus, je pense, c'est la Ale et la Lager. La Lager est une bière de fermentation basse, donc elle va fermenter à basse température, ce qui fait que la levure utilisée ne laissera pas ne donnera pas de goût fruité ou de goût épicé.
Ouais.
En fait, elle va laisser tout l'espace aux céréales et aux houblons. Donc là-dedans, on a les Pilsner, on a les Schwarzbier, on a les Märzen, plein de bières de type surtout allemande et tchèque. Tandis que les ales, c'est des bières qui fermentent à plus haute température. Ces levures-là vont donner des notes fruitées épicées, donc ça va donner des notes plus complexes, si on veut. Mais dans la lager, on a souvent une texture qui est beaucoup plus souple, soyeuse, souvent une très grande buvabilité.
OK. Et si on pouvait donner un exemple de ce qu'est une Pilsner, par exemple. La 50, c'est une Pilsner, je pense?
Non, la 50, ça serait considéré comme... On est entre deux.
Ouais.
On pourrait la considérer un peu comme une kölsch. Une kölsch, c'est une ale, donc une ale, mais qui a été fermentée un peu plus à basse température. Donc, il y a des petites touches fruitées, mais pas trop dedans.
non, mais j'essaie de trouver des produits.
On est entre les deux.
Auxquels tout le monde peut s'identifier. Tout le monde a déjà bu une 50, une Molson.
Le problème, c'est que le nom Pilsner a été un peu galvaudé. Les grands brasseurs, vu que c'était la bière la plus populaire au monde, ont utilisé ce mot-là pour mettre sur leur canette pour la faire vendre. Mais ils ont commencé à mettre, à la diluer, à mettre des sirops de maïs dedans, du riz. Alors que la pilsner originale est 100% malt, 100% houblon noble. J'invite les gens à découvrir, présentement, les microbrasseries de plus en plus développent des pilsners qui sont offertes en bouteille, en canette, et aller goûter un peu plus que l'authenticité d'une pilsner, la saveur d'une pilsner tchèque ou allemande.
OK. Quelles sont les nouvelles microbrasseries à découvrir au Québec? Est-ce qu'il y en a qui se démarquent en ce moment avec la qualité de leurs produits?
Il y en a plusieurs. C'est difficile à toutes les nommer. Il y a des brasseries classiques comme, je pense, à Pied Caribou, comme à Dieu du Ciel, qui continuent d'innover. Ouais. Il y a une brasserie présentement à Gatineau qui est tout jeune, qui a un an et demi, qui s'appelle Bas-Canada, qui a un hype, là, pour dire le terme, hallucinant. Eux, c'est intéressant parce que les brasseries se spécialisent de plus en plus. Eux se spécialisent dans les bières très houblonnées, les bières sûres, les gros stout gâteaux, si on veut. Donc, si vous êtes amateur de tout ça, c'est à visiter à Gatineau. Sinon, Hermite, en fait, Hermite à Victoriaville, ils ont commencé à encaner, mais ils brassent depuis longtemps. Font des bières un peu à l'américaine, des belles IPA.
Ouais.
Ils font aussi également une très belle Pilsner un peu plus relevée. Donc, à visiter. On parlait de bières de peut-être brasseries spécialisées, Robin, qui sont à Waterloo. Eux ne brassent pas, en fait. Ils achètent du mou et font tout fermenter dans leur barrique de bois. Ils font des bières de type saison, aussi avec des ingrédients locaux. Donc, c'est des trucs assez originaux qu'il faut découvrir.
Ouais. OK. Et, ben, je sais pas, tes coups de cœur, ce serait quoi?
Ben encore là, je pense que par rapport au Mondial de la bière, peut-être parce que je les connaissais pas beaucoup, mais Onze Comtés m'ont beaucoup impressionné.
Ouais.
C'est toujours agréable d'aller boire, comme j'ai une bonne lager chez Hildegarde ou à Ricana, ou de découvrir des classiques. Il y a Mélile aussi, qui est une brasserie qui est assez jeune, qui a à peu près 3 ans. Ils font des styles plus classiques. Ils font une IPA, ils font une belle brown ale, une red ale. Donc, c'était vraiment agréable de boire des trucs plus sur le mal, plus équilibré. Donc, encore une belle découverte.
OK. Alors, bon, le Mondial de la bière, ça se tient à la gare Windsor jusqu'à samedi prochain. Et est-ce que tu vas y retourner? Tu vas aller faire un tour là pour aller voir les produits que tu as manqués?
Peut-être si j'ai un peu de temps dimanche ou samedi soir, peut-être.
OK. Merci beaucoup, Yann,
d'avoir été plaisir. Merci beaucoup.
Yann Lortie est sommelier en bière et donc vient de parler du Mondial de la bière de Montréal. Je voulais aller faire une espèce de tour du monde de la dégustation de bière. Ben, ça se tient jusqu'à samedi. Il est 9h34. On s'arrête.